Ok, on va reprendre sur la quatrième intervention, vivre avec nos valeurs chrétiennes. Pas facile, parce que j'ai l'impression que soit vous pourriez faire l'intervention à ma place, ou bien j'enfonce des portes ouvertes en quelque sorte, parce que on sait un petit peu, on connaît nos valeurs chrétiennes. Cela dit, j'ai essayé de chercher une certaine cohérence dans ma pensée par rapport à cette question-là. Et j'ai voulu chercher, ce que j'ai plus ou moins réussi à faire, à dire à peu près les mêmes choses que ce que j'ai dit la semaine dernière, où j'ai apporté des cours à l'Institut public de Genève sur l'évangélisation. Vous allez dire, bon, on ne peut pas faire l'évangélisation au lycée, mais je pense que la réflexion est très proche. Donc, ça m'a aidé dans ce sens de dire, je suis quelque part cohérent dans ce que je suis en train de dire. Mais là, je vais expliquer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la première fois où on m'a demandé de faire une conférence au GBU, j'étais l'orateur pour le Congrès national en 2003 au château de Père Guillaume, et le titre de la conférence, et je ne m'étais pas rendu compte quand on m'a demandé de faire cette conférence aujourd'hui, c'était « Comment vivre et communiquer sa foi dans une société qui a ses propres valeurs ». C'est marrant, je suis tombé exactement sur la même chose. Et le sous-titre du congrès, c'était « Un des défis de la vie chrétienne est celui de vivre au milieu de ses contemporains sans renier les valeurs et la mission que nous a confiée Jésus-Christ. À l'heure où l'extrémisme effraie l'Occident, peut-on jouer un rôle dans la société sans perdre la saveur de notre témoignage ?» Cette phrase-là, je l'ai écrite, c'est dans mes notes, c'est avant et à soir. Donc, l'extrémisme qui effraie l'Occident. Et le mot que j'aimerais un petit peu mettre en avant, vous allez voir comment j'y arrive, c'est le mot « mission ». En fait, comme étant la façon de vivre nos valeurs chrétiennes. Je me suis permis de proposer une définition du mot valeur, parce que jusqu'à là, on a eu au moins une définition, un peu longue. Mais là, c'était le dictionnaire Hachette. Principe idéal auquel se réfèrent communément les membres d'une collectivité pour fonder leur jugement et pour diriger leur conduite. Je trouve que c'est pas mal comme définition. C'est une collectivité quelconque qui se réfère à un principe idéal. Donc, on a déjà pointé le fait qu'on essaie, dans l'éducation nationale, de transmettre des valeurs qui ne sont pas forcément partagées ou mises en commun par toute la société. Donc, on se réfère communément pour fonder un jugement, donc pour la réflexion, et pour diriger la conduite, donc l'action. Et il est évident que le problème que nous avons, c'est que nous appartenons en fait à plusieurs collectivités. Et donc, en l'occurrence, ce qui nous concerne ici, c'est la collectivité de l'école, l'éducation nationale, et la collectivité qu'on peut appeler enfin, l'Église, le peuple de Dieu. Donc on est dans deux collectivités, et les collectivités se réfèrent à un principe idéal qui n'est pas synonyme ou identique pour les deux. Donc on essaie de vivre avec cela. Ce qui est intéressant, je vais me référer à deux, trois versets dans l'épître de Paul aux Philippiens. J'aime beaucoup le début où nous lisons la phrase de la part de Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc, il est impossible en français de faire ressortir quelque chose qui existe en grec, c'est-à-dire que en Jésus-Christ et à Philippe, c'est la même préposition. On est dans, c'est pour ça que j'ai traduit, même si ce n'est pas du très bon français, mais littéralement, dans Jésus-Christ et dans Philippe. Donc on voit déjà tout de suite, dans cette introduction à l'épître aux Philippiens, cette double appartenance. Ils sont dans Philippe, donc dans la ville de Philippe, ils sont dans ou en Jésus-Christ. Et c'est la grande réalité de la vie chrétienne, de vivre dans deux environnements. Et si on réduit ça uniquement à la question « comment je vais vivre mes valeurs chrétiennes à l'école ?», on a déjà un petit peu réduit la question, parce que c'est « comment je vais vivre mes valeurs chrétiennes dans Philippe, ou dans Paris, ou dans l'école, ou dans tout ce qu'on veut mettre, dans le collège, etc. » Et une façon de l'exprimer, c'est de dire que nous sommes comme une colonie de Dieu dans ce contexte. Alors, comment j'arrive à ça? D'abord parce que Luc insiste vraiment là-dessus, quand Paul et ses compagnons arrivent à Philippe, et au verset 11 et 12 du chapitre 16 des Actes, il dit, voilà, de Néapolis, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Il insiste sur cette notion de Philippe comme colonie. Ça veut dire que c'était une ville qui avait un certain statut dans l'Empire romain. C'est une colonie, ça dépendait directement de Rome. C'était surtout peuplé des retraités, des armées impériales. On leur avait donné une place dans cette ville, c'était leur citoyenneté, ils étaient citoyens de cette colonie qui s'appelle Philippe. Et c'est pour cela que Philippiens 3, 20, il peut aussi dire, Paul, mais nous sommes citoyens des cieux. Donc on peut être citoyen de Philippe, mais aussi citoyen des cieux. Ça c'est Philippiens 3, 20. Et si on va un petit peu plus loin, j'aime beaucoup ce verset de Philippiens 1, 27. J'aime surtout le fait que la Bible du Sommer est à peu près la seule qui l'ait traduit, à mon avis, très bien. Si je lis dans la Bible Second 21, je lis seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Mais le Sommeur dit, menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume, ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le verbe de se conduire, c'est le verbe polituesté, qui, voilà le mot polis, donc de la ville, c'était vivre comme un citoyen, quelque part. Je demande à Margarita de confirmer. C'est bien vivre, mais en tant que citoyen. Avec cette double appartenance de citoyen de la ville, mais aussi citoyen du au royaume des cieux. Donc la première remarque que je voulais simplement dire donc au début, c'est que nous sommes citoyens avec une double appartenance, quel que soit notre métier, et de toute façon, en général, de la vie. Citoyen des royaumes des cieux et citoyen d'une ville, d'un pays, etc. Okay? Alors, que faire dans ce contexte? Là, c'est mon deuxième point. Ce sont ces paroles de Jésus qui dit que nous sommes des envoyés. Texte que vous connaissez certainement, Jean 17. Jean 17, on appelle des fois la prière sacerdotale de Jésus en tant que prêtre qui prie pour nous et il prie pour ses disciples et pour ceux qui croiront en lui par leur témoignage. Alors les versets 15 à 18, nous disons « Je ne te demande pas de les retirer, donc les disciples du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc cette notion d'être envoyé dans le monde, comme Jésus était envoyé dans le monde, est consacrée par la parole qui est la vérité. Et c'est la même chose dans Jean 20. J'aime aussi beaucoup ce texte. C'est après la résurrection de Jésus. Les disciples sont rassemblés dans une maison, porte fermée. Et Jésus vient et dit un seul mot, « Shalom ». La paix soit avec vous. Ils sont en train de regarder, d'être... Les disciples sont remplis de joie. Et les premiers mots prononcés par Jésus, après sa résurrection, et après le mot « Shalom » qui est de toute façon la salutation, c'est « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Donc nous sommes des envoyés de Jésus dans le monde, y compris dans l'école. Et vous savez, je pense que le mot « envoyé » en latin « mito » donne le mot « missionnaire ». Donc je pense que ce n'est pas de trop de dire que chaque chrétien est missionnaire dans son contexte, que ce soit dans sa famille, dans son quartier, dans son travail, dans son association sportive, etc. Donc nous sommes tous missionnaires. Et j'ai pensé donc que ce serait intéressant aussi de clarifier ce mot « mission ». Voilà, je m'appuie sur un spécialiste, Alès Vierre, donc, professeur de missiologie dans plusieurs écoles et instituts, dont la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine. Et sa définition est la suivante, que la mission implique le franchissement de barrières linguistiques, sociales, culturelles et religieuses, mais surtout de la barrière entre la foi et l'absence de foi, par une communication intégrale et transculturelle de l'Évangile. La mission est communication incarnée et transculturelle. Donc, ça, c'est la définition globale de la mission. Mais ce que j'ai essayé de dire la semaine dernière, et ce que j'ai dit pour chacun de nous, en tant que mission, cela s'applique à chacun de nous. D'abord, petite clarification, la mission n'est pas simplement les missionnaires qui portent le titre sur leur passeport ou je ne sais pas quoi. Ensuite, il ne faut pas confondre et dire, comme on disait souvent dans le temps, la mission c'est au loin, en Afrique, en Asie, je ne sais pas quoi, que l'évangélisation c'est chez nous. Non, pas du tout. La mission, c'est que nous sommes tous envoyés et un aspect de la mission, c'est l'évangélisation. Quand on a l'occasion. Ce qui fait que si je prends un exemple, je suis envoyé comme missionnaire, par exemple dans mon immeuble, dans mon quartier. Je vais essayer de faire du bien aux personnes qui sont là. J'aimerais pouvoir leur parler du Seigneur. Mais comme Jésus a dit lui-même, il ne faut pas jeter les perles devant les pourceaux. Si quelqu'un ne veut pas savoir, il ne faut pas insister. Mais si la personne ne veut rien savoir de l'Évangile, il me reste quand même la mission d'aller vers ces personnes-là avec tout le reste. Donc, il y a donc des barrières linguistiques, sociales, culturelles, etc. Mais surtout, il y a trois mots qui sont mentionnés là, le mot intégral, le mot transculturel et le mot incarné. Voilà. Donc la mission est un concept large. Je n'ai pas mis ça. Pourquoi transculturel? Transculturel, non, d'abord, pourquoi intégral? Parce que Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, et donc c'est bien. Le missionnaire qui part, sa vie doit être en cohérence avec ce qu'il dit. Donc, on veut être intégral et on veut être incarné, donc pour revenir à cette définition, parce qu'on va incarner les valeurs que nous avons. Et cela touche tout ce que l'on fait. Il n'y a pas un centimètre carré de notre vie, si on veut, qui n'est pas concerné par la cohérence que l'on veut avoir par rapport à notre foi. On n'est pas toujours cohérent, mais on veut être cohérent. Et, ça, être cohérent, c'est une autre façon de dire être sanctifié. Et la sanctification ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense encore à une devise des GBU d'il y a une dizaine d'années, que j'ai trouvée très bien, 100% cohérent, chargement en cours. Marion s'en souvient. Donc c'était pas mal, parce qu'on est en train de devenir plus cohérent, et c'est ça que l'on veut, c'est incarner les valeurs de façon intégrale. Et pourquoi, deuxièmement, transculturel? C'est parce qu'on reconnaît que les autres n'ont pas forcément les mêmes valeurs, nos valeurs ne vont pas de soi, les gens vivent avec des représentations mentales assez différentes, et donc, quand on se contacte, on pense des fois dire les mêmes choses, mais on n'a pas la même idée derrière ce qu'on est en train de dire. C'est tout un travail, parfois, pour se comprendre. Donc, en tant que chrétien, on va aller vers les autres avec nos valeurs, qu'on va essayer d'incarner et de vivre de cette façon transculturelle. Encore une citation, là c'est un des plus grands missiologues de la deuxième partie du XXe siècle, Leslie Newbegin, qui est assez connu dans les cercles missiologiques. Et cette phrase est traduite de l'anglais et faisait partie d'un article dans Théologie évangélique en 2014, où il pose la question, comment ça se fait que dans le Nouveau Testament, il n'y a pratiquement aucun verset qui nous dit d'évangéliser. Pratiquement aucun. Parce que les évangéliques que nous sommes, nous disons qu'il faut évangéliser, mais il n'y a pas tant de versets que cela qui parlent de l'évangélisation. Et sa réponse, c'était, ce qui doit être dit, c'est que là où l'Église est fidèle à son Seigneur, la puissance du royaume est présente, et les gens commencent à poser la question à laquelle l'Évangile est la réponse. Pas les autres questions, parce qu'on peut poser beaucoup de questions, mais quelle est la question dont l'Évangile est la réponse? Et quand on dit poser des questions, ce qui est intéressant, c'est sur les 4 ou 5 versets du Nouveau Testament qui parlent de l'évangélisation, 2 sont qu'il faut savoir répondre aux questions qu'on nous pose. Colossiens 4, verset 6, sachant répondre aux questions qu'on nous pose, et 1 Pierre 3, 15, donc de donner une réponse à tous ceux qui demandent l'espérance qui est en nous. Donc voilà. Alors, voilà, c'est ça, je vous donne les références, Colossiens 4, 6, 1 Pierre 3, 15. Donc, dans ce sens-là, si j'essaie jusque-là de résumer, avant de partir dans la deuxième partie de l'exposé, il y a deux parties, c'est de dire, nous sommes, en tant que citoyens du royaume, envoyés du Seigneur partout, et en l'occurrence à l'école. Et on veut vivre avec nos valeurs de chrétiens dans ce contexte-là. Et en ce qui concerne l'évangélisation, est-ce que l'on peut espérer que tôt ou tard, peut-être un collègue va poser une question, et, même dans la laïcité, on a le droit de répondre à une question qu'on nous pose. Dans la salle des profs, ça, ce n'est pas absolument pas interdit. Quelqu'un pose une question, on peut répondre. Alors ça, ce n'est pas un problème. Mais je suis en train d'aller plus loin de ma pensée pour le moment, parce que la pensée principale, c'est de dire, on doit vivre nos valeurs. Mais quelles sont ces valeurs? Quelles sont, si on veut, pour le dire d'une autre façon, quelles sont les valeurs du disciple? C'est le sujet du livre qui a été publié récemment. Et donc, la deuxième partie, je vais un peu résumer cela et essayer de voir les relations. On n'a pas dit, mais il y a quelques livres, si ça vous intéresse. Je les ai sortis ce matin, j'étais étonné de voir, on a 37 livres, j'ai lu maintenant, c'est fou. Très très bon livre. En tout cas, je reviens à ce livre Disciple. Et un petit mot d'explication de la raison pour laquelle je l'ai écrit. Dans le monde évangélique, on parle de plus en plus de la nécessité du discipulat, qu'est-ce qu'un disciple, etc. Et je n'étais pas toujours tout à fait à l'aise avec cela. Donc j'ai fait comme une petite retraite de 2 jours en Bretagne, il y a plus d'un an maintenant. Et la raison, c'est que je voulais lire le Nouveau Testament. Et j'ai lu le Nouveau Testament, de Matthieu, chapitre 1, verset 1, Apocalypse 22, je ne sais plus combien de versets. Il a fallu 2 jours, pas plus. Pas plus. Je me suis posé la question pourquoi je n'avais jamais fait ça auparavant, d'ailleurs. Parce que 2 jours, ce n'est pas beaucoup de temps dans une vie de lire le Nouveau Testament. J'ai eu l'idée, d'ailleurs, parce que quelques mois auparavant, j'étais dans une salle d'attente d'aéroport et j'ai commencé à lire l'Apocalypse. J'avais 1 heure d'attente pour l'avion et j'ai lu l'Apocalypse. Il faut 1 heure, pas plus. Donc, j'ai lu tout le Nouveau Testament avec des feuilles de papier à côté pour essayer de noter les idées qui venaient. Et je me suis rendu compte que, fondamentalement, il n'y a que 4 grandes valeurs pour le chrétien. Ou 4 grands domaines où il faut qu'il soit disciple. Et je me suis dit, c'est ça que je suis en train de dire aux étudiants de l'Institut biblique, si vous voulez faire de l'évangélisation, c'est là où ça commence. Et même chose pour un professeur dans cette école, c'est là où ça commence. Donc 4 grands domaines. Et ce qui est intéressant, mais c'est un détail que je ne vais pas forcément sortir des textes d'aujourd'hui, mais dans les 4 cas, il y a des versets qui montrent que c'est aujourd'hui qu'on doit le vivre. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. Et deuxième chose, je n'aurai pas forcément l'intention de le faire sortir, mais quand on a le Notre Père, quand on lit le Notre Père, on retrouve exactement ces 4 grands éléments de la vie du disciple. Quelles sont ces choses? Le premier, c'est de s'émerveiller devant Dieu et de l'adorer aujourd'hui. L'adoration, louange, etc. Donc, le verset que je cite pour cela, qui comporte le mot aujourd'hui d'ailleurs, c'est Ésaïe 38, 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Donc, louer Dieu, l'adorer, le remercier, s'émerveiller. Tout cela fait partie de notre vie de disciple. Le contexte d'ailleurs de Ésaïe 38, que je ne vais pas développer en détail, mais c'est que le roi Ézéchias avait reçu une prophétie comme quoi il allait mourir, et il a demandé à Dieu de le sauver en quelque sorte, et Dieu lui a donné quelques années supplémentaires de vie, et c'est à ce moment-là qu'il s'est écrié « le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. » Et je pense que même devant une salle de classe, même partout, le but de notre vie, c'est de vivre coram Deo, c'est-à-dire en présence de Dieu, en le remerciant pour tout. Petit exemple, à un certain moment, il est vrai, je crois qu'on est tous passés un peu comme ça, on disait « rendre grâce avant un repas, c'est un peu la tradition, c'est un peu liturgique, on le fait par habitude. » Mais je me suis rendu compte que, ben non, quand je regarde ce que j'ai dans mon assiette, mais c'est absolument remarquable. Le goût, l'aspect, les couleurs, et ça m'a fait du bien en même temps, et que j'en ai sur mon assiette aujourd'hui, que je peux manger en compagnie de personnes que j'aime, c'est un vrai privilège, je peux vraiment dire merci. Et je me souviens une fois, on était à Champfleury au camp à Fort-la-Forme, et je faisais un cours sur l'apologétique, et puis on était à table, et finalement j'ai sorti une phrase pour quelqu'un du troisième niveau, je dis, je crois que le meilleur argument apologétique que je connais, c'est le plat de tomates avec la sauce, où je suis assis en face de cette montagne. C'est le meilleur argument apologétique que je connais. C'est super. Donc, de pouvoir dire merci au Seigneur. Et connaître ce cœur d'enfant, hein, le Seigneur lui demande de devenir comme un petit enfant qui va s'émerveiller pour tout. Je me souviens une fois, il pleuvait, je suis pas trop là, la pluie, j'avoue. Puis je rentrais de chez moi depuis le métro. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à regarder les flaques d'eau. Bon, Jérémy regarde tout le temps dans les flaques d'eau pour prendre des photos, mais c'est pas forcément mon habitude. Mais les reflets dans la flaque d'eau, c'était incroyable. Et j'ai remercié le Seigneur pour ça. Tout comme on peut le remercier fondamentalement pour la vie qu'il me donne, pour les relations que j'ai, pour mon mariage, les enfants, ma maison. Et aller plus loin, parce que je suis réconcilié avec Dieu, que j'ai la vie éternelle, et que le meilleur est toujours devant moi. Donc je peux le remercier pour tout cela. Donc comme la prière du Notre Père dit, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire donc reconnu, respecté, adoré par tout le monde. Tout cela, on n'est pas forcément obligé de le dire en toutes lettres aux personnes qui sont autour de nous, mais parfois ça sous-tend les valeurs que l'on va vivre, parce qu'on se rappelle qu'on n'est pas seulement sur le plan horizontal dans ce qu'on fait, c'est que moi je vis en présence de Dieu et devant Dieu. On peut aussi le faire connaître un petit peu indirectement, mais par exemple pour les vœux de Nouvel An, avec ma femme, on a été un petit peu, on peut dire, on a eu un peu marre à certains moments que les gens disent « Bonne année, bonne santé, surtout la santé, parce que sans la santé, etc. » Tout le monde dit ça. Donc, on commençait à dire « bonne année, que le Seigneur te bénisse cette année. » Même pour les gens que ne connaissent pas beaucoup, personne n'a jamais refusé ou contesté. Parce que c'était ça que je voulais pour la personne. Bon, c'était moi, c'était être naturel en quelque sorte, hein, c'est tout. Donc voilà, le premier élément du disciple, c'est d'adorer Dieu aujourd'hui. Le deuxième, c'est de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Et je pense que fondamentalement, si notre adoration n'est pas forcément aperçue par les gens autour de nous, la confiance que l'on a en Dieu peut beaucoup plus être vue par tout le monde. Et même de faire confiance à Dieu aujourd'hui. J'oserais même dire qu'il est tentant de vivre dans le passé, une certaine nostalgie, ou tentant de vivre dans le futur. Comme je dis des fois, quand j'aurai mon bac, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai du travail, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une belle maison, quand je serai à la retraite, alors là, je serai heureux. Et puis on repousse, alors que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous demande d'avoir confiance. Deux versets, Proverbe 2, 22-19, « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. » Et l'autre, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est la question de confiance en Dieu. Et j'ai dit dans ce sens, je ne sais pas si je l'ai poussé trop loin, mais j'ai dit, « Mais il est héroïque de vivre avec cette confiance aujourd'hui. » C'est l'héroïsme du banal, on va dire. C'est-à-dire que c'est banal de vivre aujourd'hui, mais c'est héroïque de vivre aujourd'hui en faisant confiance à Dieu. Et je suis relativement convaincu que des collègues, j'étais dans l'enseignement, j'étais prof dans un lycée, mais il y a bien des années, donc depuis je suis réincarné comme pasteur, mais, non pas, non. Je suis devenu pasteur. Donc je me souviens, mais devant peut-être les enfants, on avait une certaine image, mais quand on discutait avec les gens, ils avaient leurs problèmes, ils avaient leurs soucis, leurs anxiétés qui dépassaient de loin les questions dont on a discuté aujourd'hui, les questions personnelles, etc. Donc si on peut mettre en pratique Matthieu 6, qui dit ne pas s'inquiéter sur les choses matérielles, c'est tout l'enseignement de Matthieu 6, il y a plusieurs raisons pour ne pas s'inquiéter. Donc, d'abord parce qu'il y a des choses plus importantes. Texte. Pas de ce que vous mangerez, ce que vous boirez pour vivre, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, avoir une vraie échelle de valeur où on met les choses vraiment importantes au-dessus. Ensuite, Dieu s'occupe même des oiseaux et des fleurs, donc il peut s'occuper de nous. Des soucis ne changent rien à la situation, qui peut ajouter une coudée à la durée de la vie par des soucis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à réfléchir et essayer de faire le mieux. Mais ce n'est pas les soucis qui changent quelque chose. La réflexion peut-être, mais jamais les soucis. Ce sont les non-chrétiens qui cherchent ces choses, hein, les païens qui les cherchent. Et puis, verset 32, « Parce que votre Père sait ce dont nous avons besoin. » Donc de vivre avec cette valeur-là devant Dieu, de faire confiance pour la vie, pour la mort, pour les détails, pour les grandes choses, ça va se voir dans notre vie, à mon sens. Troisième partie de nos valeurs, après l'adoration et la confiance, c'est le bon combat. On n'est pas utopique, on ne se fait pas d'illusions, la vie est aussi un combat. Et nous le savons en tant que chrétiens, on sait pourquoi. C'est parce que l'homme est pécheur. Et quand il y a des événements comme hier soir ou d'autres événements moins graves, combien de fois les gens disent « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» En tant que chrétien, on se dit en soi-même « Je sais, les êtres humains se sont détournés de Dieu, ils sont perdus, ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire et de pourquoi. Ils s'attachent à n'importe quoi. » Mais le Seigneur nous dit donc de combattre le bon combat. Donc, sachant que le bon combat, c'est le combat contre le mal et contre le péché. Le mauvais combat, c'est un combat contre des personnes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Hein, donc, ça, c'est Éphésiens 6. Ça, c'est le mauvais combat. Le bon combat, c'est contre le péché. Donc, Hébreux 3, 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, donc encore aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Une séduction du péché, et on se dit, moi je veux m'opposer au mal. C'est un combat, mais je veux m'opposer au mal, au péché. Et le dire, il y a des versets qui parlent de cette séduction du péché. Rapidement, Marc 14, on dit c'est la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, l'histoire du semeur. Éphésiens 4, 41, qui dit que les gens vont essayer de nous séduire par leurs ruses dans les moyens de séduction par rapport aux différents vents de doctrine. Personnellement, j'aime bien, puisque c'est aujourd'hui que l'on lutte, c'est pas demain. Je pense que l'engagement d'alcoolique anonyme est tout à fait juste pour cela, qui est inspiration chrétienne. Hein, donc, je ne dis pas que tout alcoolique anonyme est inspiration chrétienne, mais cette idée l'est. Donc, je le lis. Un membre AA, donc alcoolique anonyme, ne jure jamais de ne plus boire. Il ne fait jamais de promesses qui l'engueulait juré à ne pas boire demain. Mais il reconnaît que son plus grand problème est de rester abstinent dans le moment actuel. Les 24 heures d'aujourd'hui sont la seule période de sa vie où il peut accomplir quelque chose en regard de son problème. Hier a disparu, demain n'est jamais là, mais aujourd'hui, se dit-il, aujourd'hui, je ne prendrai pas un verre. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de me dire, c'est aujourd'hui que je veux combattre tel ou tel mal en moi, ou dans la société, je ne sais pas quoi. C'est aujourd'hui. Donc, ce texte que j'ai téléchargé sur le site Alcoolique Anonyme. Et j'ajoute juste un truc, non, je n'ai pas mis là. On parle aussi à plusieurs reprises du combat de la prière. Donc, par exemple, Épaphras dans Colossiens 4, 12. Et je pense qu'un élément que l'éducation nationale oublie, c'est qu'on peut prier pour ses élèves. On peut prier pour ses collègues. On peut prier pour la situation dans le lycée ou le collège ou l'école. Et on ne peut pas mesurer les résultats de cette prière, mais je crois qu'on peut prier. Il m'arrive même, par exemple, dans le métro, le RER, de regarder autour de moi et je ne connais pas les gens, mais je prie pour chacun que je vois autour de moi, entre chaque station, en disant « Seigneur, réveille-toi ces personnes, qu'ils puissent te connaître, etc. » Quel est le résultat de ma prière? J'en sais rien. Mais c'est un certain combat de mettre la prière plus au centre que ce que nous faisons habituellement. Ou on prie pour des choses spirituelles. Comme quelqu'un a dit une fois, j'ai lu un témoignage, j'ai dit, dans une église, on va surtout prier pour les monitrices de l'école des dimanches, mais on ne prie pas pour les profs dans l'église qui auront les enfants toute la semaine. Donc voilà, c'est aussi un combat. Quatrième et dernier aspect de notre parcours des quatre éléments des valeurs chrétiennes, c'est faire du bien aujourd'hui à la personne que Dieu met sur mon chemin. Matthieu 22, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est si la première chose, adorer Dieu, c'était aimer Dieu de tout notre être. La quatrième chose, c'est de aimer mon prochain comme moi-même. Et j'ai mis d'autres versets, Galates 6, 10, qui dit de faire du bien à tous et surtout aux frères dans la foi. 1 Thessaloniciens 5, 15, qui dit la même chose, faites du bien aux frères dans l'Église et aussi à tous. Et Jean 13, 35 qui dit, de toute façon, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, donc dans la communauté chrétienne. Donc, la mission dans ce sens-là, c'est là où je reviens au fait que je veux une cohérence entre ce que j'ai dit pour l'évangélisation à l'Institut biblique et pour vous. La mission, c'est que dans le Nouveau Testament, 99% des textes parlent de la vie du disciple et pas du tout de la nécessité d'en parler à d'autres. Mais on peut aussi avoir beaucoup de rencontres apparemment fortuites. Et quand on lit le livre des Actes, on est étonné en fait, il n'y a pas de stratégie pour le rencontrer des personnes. Est-ce que Paul... La réponse est évidente à ma question. Est-ce que Paul a dit « je veux avoir une mission auprès des gardiens de prison ». Donc, je vais chasser un démon, je vais priver ses propriétaires de ses gains, ils vont faire une émeute, on va me mettre en prison, comme ça le Seigneur peut faire un tremblement de terre et je pourrai témoigner au geôlier. Ce n'était pas prévu. Mais tout le temps, c'était des rencontres tout à fait... fortuite. Et on ne sait jamais avec qui on va tomber, à quel moment, pour faire du bien à la personne. Et si on n'est pas égoïste et on lève les yeux Je suis sûr qu'on peut faire beaucoup de bien à des personnes dans son entourage et surtout au niveau de l'école. Tout simplement faire du bien. On ne sait jamais l'occasion qu'on peut avoir. L'histoire que j'aime, peut-être certains ont déjà entendu ça, pour dire qu'on ne sait jamais quand ça peut se passer. J'habitais encore en Seine-Saint-Denis et un matin, dans la RER, j'ai lisé un livre sur l'histoire de l'Église, ou je me souviens plus lequel. Puis il y avait un monsieur d'une quarantaine d'années à côté de moi, et c'est rare en fait, il me dit « Excusez-moi, je vois un peu ce que vous disiez, est-ce que vous pourriez m'expliquer la réforme ?» Il dit, je m'explique, je suis prof d'histoire, je suis musulman, je ne comprends rien. Et j'avais quatre citations pour essayer d'expliquer l'évangile à cette personne. On ne sait jamais. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans notre but qu'on ne voit pas ces occasions de faire le bien autour de nous quand le Seigneur nous le donne. Une autre fois, une anecdote qui est beaucoup plus... difficile pour moi à raconter, mais une fois j'étais dans le métro, j'ai vu une vieille dame qui essayait de monter l'escalier avec un sac assez lourd. Je courais parce que j'avais une réunion, j'ai vu. Une minute après, je dis, mais c'est n'importe quoi, tu as fait là, David. Je suis retourné sur mes pas, j'ai pas trouvé la personne. Et je me suis dit, si jamais la prochaine fois que je vois quelqu'un comme ça, je vais quand même essayer d'aider la personne parce que je l'ai vu. Mais j'étais dans ma bulle. Et cela, je dirais, à la différence de l'héroïsme du quotidien, c'est l'aventure du quotidien. Parce qu'on ne sait jamais au moment où on se lève le matin, qui on va rencontrer, là, quel bien on peut faire à quelqu'un, peut-être on peut dire un mot de témoignage, on ne sait jamais. Donc, pour résumer, parce que j'ai eu mes trois quarts d'heure, la foi chrétienne est avant tout, et c'est nos valeurs vraiment fondamentales, la foi chrétienne est relationnelle. Aimer Dieu, aimer son prochain, Marc 12, connaître Dieu, c'est la vie éternelle, Jean 17, aimer les frères et aimer tous, en Thessaloniciens 3, 12. Donc, si on peut incarner et vivre de façon intégrale tout ce qui est relationnel surtout, je suis convaincu que cela est déjà notre mission, on est envoyé vers les personnes pour le faire. Et je suis aussi convaincu que de temps en temps, le Seigneur donnera aussi l'occasion de le dire plus spécifiquement et de dire les raisons pour lesquelles nous avons cette espérance. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a un petit livre qui est là.